Irène Emelianenko, bonjour.
Bonjour Hervé Gardel.
Sur les docs, c'est tout de suite avec vous et c'est la fin de votre semaine consacrée au numérique.
Tout à fait, au numérique en lien avec la naissance de notre nouveau site et d'une audiothèque regroupant à terme presque tous les documentaires de France Culture. Alors aujourd'hui, nous allons nous confronter au désir et à la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Une loi dont le nouveau ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, avait été le rapporteur.
Oui Hervé, et cette loi croise bien des risques possibles si l'application que nous concoctent les Kennedy Tigers inonde le marché français. Cette équipe de jeunes entrepreneurs, en observant la réaction de nos concitoyens, se retournant sur certaines passantes ou passants, a pensé à une application permettant un tag instantané du lieu de la rencontre et le signalement des différents atouts de la dite passante. Cette application s'appelle Bombas Map, titre encore provisoire mais très explicite.
Aujourd'hui, sur les docks, va à la rencontre d'une équipe d'entrepreneurs, les Kennedy Tigers. Ils développent le projet Bombas Map, une application de rencontres amoureuses pour smartphone. Elle permet de noter, de géolocaliser, de partager des commentaires, d'échanger autour d'une target, une personne rencontrée rapidement dans un commerce, une entreprise, une rue, sans qu'elle soit au courant. Bombas Map offre à ses utilisateurs publics des informations privées, leur permet de se préparer dans l'éventualité d'une rencontre plus longue avec la target. Mais Bombas Map permet surtout d'accumuler des données, tant volontaires de la part de ses utilisateurs qu'involontaires de la part de ses targets. Ces données seront elles-mêmes récupérées par d'autres, revendues ou échangées. Nous retrouvons l'équipe des Kennedy Tigers dans leur bureau parisien, en bord de Seine.
Je trouve ça hyper clair, Bombas Map.
Bombas, c'est pas international
bah non,
en plus.
Si une nana,
mais on s'en fout, est-ce qu'on
pas à Bombas Map
international.
Ah bah oui.
Toi, tu aimerais pas te faire appeler Bombas ?
Tu t'abonnes pas à Bombas Map,
si ouais,
tu veux choper un mec.
Quelque chose d'un peu plus mignon, faudrait quand même.
Bombas.
Un peu plus mignon.
Moi, je pense qu'il faut être super cash.
Kawaii.
Bombas. Tu t'appelles Bombas Map, tu sais pourquoi
donc,
tu le prends. C'est comme adopte un mec, c'est pas adopte une meuf.
C'est une bombasse. Et...
Ouais, il faudrait trouver masculin et féminin.
Vous dites jamais Bombas pour un mec.
Bah non.
Non.
Enfin, moi non. Vous
ah non, je suis pas Bombas.
Non, mais il faut demander à la cible. Hein. La cible, c'est quoi? C'est du 18-25. Les vieux, on va les laisser sur Tinder. Nous, on va faire un truc mieux.
Ah oui.
Moi, j'en pense qu'il faut absolument pas l'appeler Bombas Map.
Moi, je pense aussi, ouais.
Parce qu'on peut pas l'appeler Bombas Map.
Si c'est masculin,
non mais après, tu t'adresses à qui là?
Non. Pour moi, vous êtes rétrograde, il faut être très cash, encore une fois.
Alors
il y a plein
d'applications.
On adopte un mec.
Oui, mais elle est clairement orientée femme.
Oui, mais sauf qu'il y a aussi. Elle est aussi orientée mec, parce que personne n'est dupe.
Ah,
c'est
oui,
comme Ashley Madison. C'est-à-dire que c'est majoritairement des garçons qui vont sur ce genre de truc avec une promesse de présence féminine.
Elle est bonne ou elle est sympa, cette, la personne? Est-ce que ça suffit pour finalement après faire...
Non, il faut des degrés de bonitude et des degrés de sympathie.
Tout à fait, parce qu'il faut qu'on puisse proposer à la personne, dire « Attention, t'as un mec vraiment très 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 bon. Là, il est un peu plus loin, mais par contre celui-là... »
Non, ou alors si on avait une petite silhouette.
Parce que...
Il y a un truc intéressant dans la silhouette.
Une petite
sur
silhouette
le système de notation.
Avec
en
un
fait,
truc
ça peut
comme
être
un...
Il y a un niveau qui se remplit de bonitude.
Comme un thermomètre.
Oui, c'est ça.
C'est...
Et
ça
de
bonitude. Tu sais, tu mets une silhouette
sur le
côté de la pluie, là.
Niveau de bombasse, une jauge à bombasse. Ouais, c'est ça, niveau de bombastique. Et d'ailleurs.
Le bombastique thermomètre.
Le bombastique metteur.
Bombastique metteur.
Curic bombastique.
Mr. Bombastic! We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lova, Lova.
Loi renseignement, la grande collecte. Arnaud Contreras, Guillaume Belli.
Mr. Lover, Lover. She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr.
Dominique Cardon, moi je suis sociologue, je suis chercheur dans le laboratoire d'Orange Labs et professeur à l'université de Marne-la-Vallée.
Est-ce que vous trouvez cette application réaliste?
Dans le monde de l'Internet, il y a l'idée qu'on rend public plein d'informations sur les personnes. Mais on voit très bien la logique qui s'est mise en place maintenant depuis 2005 avec les réseaux sociaux, c'est qu'on construit son identité, on raconte beaucoup de choses sur soi, on lâche des éléments de sa vie personnelle... professionnelle, amicale, éventuellement amoureuse publiquement, mais on choisit très précisément ce qu'on met en scène. Et donc ce qui est frappant dans les observations, c'est qu'en fait il y a un travail de filtre, de sélection, de construction de soi, de mise en scène de soi, qui fait que les traits qui sont rendus publics sont des traits très choisis, très construits, et du coup très euphoriques, très positifs, très valorisants en fait pour les personnes, et que les traits négatifs ou que les difficultés ou que les souffrances ou que les troubles personnels sont en revanche beaucoup moins visibles publiquement. Donc déjà du côté des individus, en fait, on a l'impression que c'est la personne qui serait devenue transparente au réseau. En réalité, la personne négocie complètement son identité sur le réseau. Et deuxième élément, est-ce que les gens vont commenter d'autres personnes? Alors ça, c'est une grande histoire dans le monde de l'Internet, parce que beaucoup de... On évalue plein de choses, on commente plein de choses, on commente des photos, on commente des articles, on commente des produits, on commente à tout va. Dans quel espace du monde numérique on accepte de commenter des gens? Un système mutualisé et généralisé d'évaluation de tous par tous. En fait, j'ai du mal à croire qu'on entrerait dans ce monde-là. Voilà.
Quelles seraient les vraies résistances à entrer dans ce monde-là?
C'est qu'en fait, les usagers négocient leurs relations avec ces services et qu'il faut qu'ils s'approprient ces technologies. Et ces appropriations, c'est la vie sociale, c'est la socialisation, c'est les activités, c'est plein de choses que nous voulons faire avec ces outils ou que nous ne voulons pas faire avec ces outils. Et il y a beaucoup de choses qu'on veut pas faire. Donc il y a beaucoup de propositions qui nous sont faites et en fait qu'on n'utilise pas. Il y a beaucoup de notations qui sont faites et qui ne marchent pas. Google avait mis en place un système de géolocalisation où on pouvait tracer tout le monde. Voilà. Bon, ils l'ont retiré au bout de 6 mois. En fait, les gens ne le font pas. Et surtout, les gens se géolocalisaient quand c'était volontaire, uniquement dans les endroits chics, sympas, ils sont en concert, ils sont dans des endroits, dans des restos, des bars, etc. Mais ils sont jamais au Monoprix, à la Laverie, etc. Parce que les gens, voilà, les gens n'ont pas envie de le montrer, cet élément-là. Donc moi, je pense qu'on oublie toujours, dans le débat sur l'emprise technologique, qui est réelle dans nos vies, qu'on oublie toujours dans le débat sur l'emprise technologique que nous, individus, aussi, on a des capacités de résistance, de négociation, de trucage, de brouillage, on rend les choses beaucoup plus compliquées que ce que l'imaginent les ingénieurs, souvent.
De la quadrature du net, ce qu'on appelle familièrement le garage. C'est plus vraiment un garage, mais les premiers locaux de la quadrature étaient près d'un garage. Et puis, à l'époque d'Adopi, la ministre de la Culture parlait de la quadrature en disant « Oui, c'est Singus dans un garage ». Donc, on continue à appeler ce local un garage, même si aujourd'hui, ça ressemble plus à un chouette appartement parisien qu'à un garage. Et comme on est une association avec beaucoup de bénévoles et qu'on aime beaucoup se retrouver, et soit pour travailler ensemble, soit pour faire la fête, on apprécie beaucoup d'avoir un espace comme ça où on peut travailler, on peut cuisiner, on a une super cuisine aussi. Et comme on aime bien manger et bien faire la cuisine, on est très bien ici. On a des affiches qu'on avait sorties au moment de la loi sur le renseignement, des affiches contre la surveillance, qui sont des affiches avec un œil qui vous regarde. On a une affiche en anglais qui dit Claim your privacy, défendez votre vie privée, qui est aussi un des grands thèmes de la quadrature et qui date de la création d'une vidéo qui avait été faite il y a quelques années pour expliquer la question de la protection de la vie privée.
Et on voit un portrait de famille, donc, avec un personnage.
Oui, on a un portrait de Edward Snowden dans un coin. C'est pas la famille, mais enfin, c'est pas loin, quoi. C'est, disons qu'on le soutient beaucoup, évidemment. Edward Snowden, c'est quelqu'un qui donc a révélé l'ampleur des écoutes des services de renseignement américains et qui, à cause de ça, se retrouve bloqué en Russie depuis 2 ans et demi. Pour nous, c'est quelqu'un d'extrêmement admirable pour ce qu'il a fait, parce qu'il a sacrifié beaucoup de choses pour montrer aux citoyens américains et du monde entier à quel point, d'une part, la surveillance généralisée était par les services de renseignement était une mauvaise chose, et d'autre part, que les services de renseignement ne respectaient pas les lois auxquelles ils étaient soumis. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît aux États-Unis, mais qu'on connaît aussi en France. Et quand on a... L'an dernier, on a eu la loi sur le renseignement qui a été votée, on a enjoint les parlementaires à voter pour légaliser des mesures hyper intrusives déjà pratiquées depuis longtemps par les services de renseignement. C'est passé avec une opposition d'une grande part de la société civile, mais sans aucune écoute de la part du gouvernement. Et on se dit que peut-être un jour, dans les services français, il y aura un Snowden qui montrera ce que les gouvernements et les politiques n'ont pas voulu voir, c'est-à-dire que la surveillance de masse était pratiquée en France et que c'était une très mauvaise chose.
Je vous demandais de vous présenter.
Alors, je m'appelle Adrienne Charmet, je suis la coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net.
Qu'est-ce que c'est la Quadrature du Net ?
La Quadrature du Net, c'est une association qui a été fondée en 2008, au moment du vote de la loi Hadopi, et qui a pour objectif de défendre les droits fondamentaux dans l'espace numérique. Ça veut dire qu'on défend les droits fondamentaux classiques, le droit à la vie privée, la lutte contre la censure, le droit à la liberté d'expression, etc. Mais avec une spécialisation dans les questions numériques, parce que on a une composition de l'association et une réflexion qui tourne autour de la connaissance d'Internet, des réseaux et des usages, et puis avec une forte spécialité juridique aussi.
En quoi consiste votre travail ici
à... Alors, à la Quadrature, mon travail consiste en plusieurs choses. La première, c'est de coordonner les campagnes de l'association. Donc, quand on parle de campagne, ça veut dire que notre mode d'action, il est assez simple. On identifie les législations françaises ou européennes ou les politiques qui vont impacter la question des droits fondamentaux dans l'espace numérique. Et on va étudier ces projets de loi, on va les analyser. Une fois qu'ils sont analysés, on essaye de mettre à la portée des citoyens cette analyse qu'on va produire, une analyse juridique et technique, en montrant quels sont les enjeux, pourquoi telle chose nous semble bien, pas bien, quel impact ça a sur la liberté d'expression, la censure, la vie privée, la surveillance, le droit d'auteur, ce genre de choses-là. Et à partir de là, on va développer ou mettre à disposition des outils pour les citoyens, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en charge ces sujets-là et les porter devant les politiques.
Merci. La parole est à Laurence Dumont pour le groupe SRC et pour 5 minutes.
Le projet de loi présenté aujourd'hui est essentiel et fondateur en ce qu'il donne un cadre juridique aux services de renseignement, les définit et organise le contrôle de leurs activités. Il est essentiel pour prévenir des menaces réelles qui pèsent sur notre pays et nos concitoyens. Il est essentiel aussi pour garantir le respect de la vie privée de nos concitoyens et une limitation au strict nécessaire de l'accès et de l'utilisation de leurs données personnelles. La CNIL, la Commission de réflexion sur les libertés à l'âge du numérique, d'autres institutions entendues lors des auditions ont rappelé que ce droit à la protection des données personnelles était un droit fondamental. Alors allons plus loin, il y a nécessité, je pense, à constitutionnaliser la protection des données personnelles de façon autonome et spécifique pour prolonger la protection de la vie privée à l'ère du numérique dont le développement et les techniques évoluent chaque jour. Bien entendu, ce n'est pas avec ce texte que nous le ferons, mais l'objet de celui-ci ne peut que nous interroger sur cette nécessité. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, je me permets de demander à nouveau qu'une révision de la Constitution puisse y remédier.
La question des données personnelles, elle est assez centrale et de plus en plus centrale, parce qu'en fait, elle concerne à la fois la question des usages sur Internet, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme outil et comme application et comme service, et qu'est-ce que ça entraîne en termes d'exploitation des données personnelles. Et puis, ça joue aussi dans un autre grand sujet qu'on traite en ce moment, qui est le sujet de la surveillance par les États des citoyens, dans des buts sécuritaires ou de lutte contre le terrorisme ou de renseignement. Et les deux, à la fois les grandes plateformes web et les États, utilisent la collecte de données personnelles pour faire un certain nombre et un certain type de traitements qui, pour nous, sont pour la plupart et en très grande partie des atteintes à la vie privée. Et de ces atteintes à la vie privée découlent tout un tas d'autres conséquences pour les droits fondamentaux des citoyens.
Aujourd'hui, on est en plein état d'urgence. Qu'est-ce que ça implique du point de vue de la collecte des données ?
En réalité, par exemple, un des points dans l'état d'urgence qui nous inquiète beaucoup, c'est les perquisitions informatiques. On peut faire des perquisitions, déjà dans le droit français, des perquisitions d'ordinateurs, c'est-à-dire qu'on va aspirer ce qu'il y a dans les ordi et les remettre à la justice. Là, en ce moment, quasi toutes les perquisitions qui sont faites, des témoignages qui sont ressortis, à chaque fois la police arrive et branche des appareils qui vident les ordi et qui vident les téléphones portables des gens. Et dans la loi, sur l'état d'urgence, la loi dit qu'on peut aspirer tout ce qui est contenu dans un ordinateur, mais aussi tout ce qui est accessible depuis un ordinateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la personne perquisitionnée qui est touchée, mais aussi tous ses contacts, tout son entourage. Imaginons qu'on récupère tous vos mots de passe de connexion à Facebook, à Twitter, à tous les réseaux, les forums, etc. Qu'est-ce qui va être fait de tous ces mots de passe, de tous ces accès, de tout le réseau que vous avez, toutes les adresses mail de tous vos correspondants, etc. Ça, on n'en sait rien. On ne sait pas où partent ces données. On ne sait pas ce qu'elles vont alimenter comme service de renseignement. On ne sait pas combien de temps elles vont être conservées. On ne sait pas si elles vont être utilisées, détruites. En fait, on n'a aucune indication. Et on a aujourd'hui des centaines et des centaines d'ordinateurs qui sont perquisitionnés, sachant que quand la plupart des perquisitions, d'après les chiffres qu'on a du ministère de l'Intérieur, ne donnent pas lieu à une quelconque ouverture de dossier derrière, les gens disent on n'a rien trouvé, bah pour autant tous les ordinateurs sont aspirés quand même.
Du point de vue des applications mobiles, donc des données que les gens mettent eux-mêmes en ligne, est-ce que ces données sont collectées aussi par les services de renseignement, par les différentes institutions, du fait de l'état d'urgence ?
Ah mais là c'est même hors état d'urgence. Il y a de toute façon une interconnexion très très forte entre les services web et les services de renseignement. Le principe des services de renseignement, état d'urgence ou pas, c'est qu'elles vont s'appuyer sur ce que les gens font sur Internet pour aller étudier leur comportement. Aujourd'hui en France, on a des lois qui nous disent qu'il faut conserver l'intégralité des données de connexion des personnes pendant un certain laps de temps, au moins 2 ans, et que les services peuvent ensuite aller piocher, interroger ces données-là. Ils peuvent même aller le faire directement avec les lois sur le renseignement. Ils vont pouvoir installer directement au cœur du réseau Internet des dispositifs permettant d'étudier le comportement des internautes. Et cette étude, elle se fait par les données personnelles, et ces données personnelles, c'est toutes les données comportementales, notamment, des gens. Donc ça veut dire que les services de renseignement se nourrissent perpétuellement de ce que nous, on va donner comme information, de manière consciente ou inconsciente. C'est notamment, si on parle un peu des révélations d'Edward Snowden, c'est un des points principaux dans ces révélations. C'est pas le fait que les services de renseignement fassent du renseignement, qui était une surprise, ça c'est assez classique. C'est le fait qu'ils utilisent massivement les données collectées par Google, Facebook, Yahoo, Amazon, pour surveiller les internautes européens, américains, etc. Et les services de renseignement européens et français sont à peu près dans la même approche.
Est-ce qu'il y a un malgré soi ? On parlait de géolocalisation. Nos outils nous géolocalisent, pas forcément dans des endroits sympas.
Il y a les traces explicites que donne l'utilisateur et qu'il donne parce que ça participe de cette sorte d'immense théâtre social dans lequel on se montre. Et puis il y a les traces implicites, c'est-à-dire en fait tous ces réseaux nous capturent. Alors là, et là on a raison d'être inquiet et hyper vigilant, hein, c'est-à-dire que en fait, à notre insu, de façon absolument implicite, ces outils enregistrent à peu près tout. Et donc il y a des endroits, mais ça c'est dans des serveurs, c'est pas rendu public, où ces traces sont enregistrées, stockées, calculées pour nous produire du service. Donc elles ont une fonction d'une certaine manière de marketing ou de capture commerciale en fait de l'information pour ensuite essayer de nous refourguer des services. Et puis elles peuvent être aussi dans certaines circonstances l'objet d'une surveillance étatique, policière, etc. Alors est-ce qu'on peut y échapper? Ça devient de moins en moins facile. C'est une des propriétés très paradoxales du monde digital, c'est qu'en fait il a besoin pour son fonctionnement d'avaler de la trace. L'informatique produit constamment des signaux d'infimes activités qui sont ensuite enregistrés.
Alors moi je suis Hawking, je travaille à la Quadrature du Net et je m'occupe particulièrement de tout ce qui est de la partie technique de la Quadrature, donc le développement des outils, mettre en place les sites web, les maintenir, assurer un peu que nos outils de communication en interne fonctionnent, etc., etc.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la collecte ? Comment sont collectées nos données ou vos données ?
Alors, c'est compliqué en fait. Il y a plein de façons de le faire. Par exemple, il y a souvent la façon semi-volontaire. Par exemple, quand vous créez un compte sur Facebook, on va vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, l'endroit où vous vivez, ce genre de choses-là en fait, qui sont de la donnée qui va servir généralement pour vous présenter, pour faire une fiche profil, et qui sont une collecte plus ou moins volontaire. C'est-à-dire que, bah, on sait qu'on a transmis des données, on sait ce qu'on a transmis comme type de données, on sait à peu près où elles sont. On n'a plus beaucoup de contrôle dessus, mais au moins, on sait, il y a eu un formulaire qui nous a dit, bah, je veux envoyer des données. Donc ça, c'est la première partie, qui correspond souvent à ce qui est nécessaire pour créer un compte et pour interagir sur les plateformes. Il y a après une autre partie beaucoup plus insidieuse. On va mettre ce qu'on appelle un cookie dans votre navigateur. C'est-à-dire qu'un site comme Facebook, ils vont placer un fichier, en fait, qui contient un numéro unique d'identification. Ce qui est très pratique à la base parce que, par exemple, c'est ce qui évite que vous ayez besoin de vous connecter à chaque fois que vous avez une page de Facebook. Vous êtes connecté une fois, Facebook, vous avez le cookie sur votre navigateur. Quand vous allez sur le site, Facebook lit le cookie, c'est que vous êtes connecté. Vous n'avez pas besoin de vous reconnecter dès que vous voulez ouvrir une page sur Facebook. À la base, c'était le principe du cookie, c'était justement de garder des données persistantes sur le navigateur de l'utilisateur pour éviter qu'il se reconnecte à chaque fois. Seulement, bah, comme ça permet d'identifier de manière unique une personne, bah, par exemple un site, on peut prendre les sites de presse typiquement, ou beaucoup de sites où il y a le bouton « j'aime » de Facebook. Ce bouton « j'aime », il a la possibilité d'aller lire le cookie en fait. Donc il sait quel utilisateur a lu quel site. Il sait à quel moment et combien de temps il a passé sur le site à peu près. Donc avec ça, c'est une deuxième phase de récupération de données en fait, de tracking, enfin, qui est complètement par contre involontaire celle-là. On n'est pas, généralement c'est assez discret, c'est caché, on ne le voit pas forcément. Et après il y a un troisième type. Avec ces deux premiers trucs-là, on peut identifier par exemple de manière statistique un utilisateur. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple sur Facebook, il y a des études qui ont été faites avec une cinquantaine de likes. On commence à pouvoir prédire quels vont être vos prochains likes. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez aimé telle série, et que vous êtes allé lire tel site, et que vous jouez à tel jeu vidéo, et qu'il y a un utilisateur qui a aussi, et que les utilisateurs de ce type-là vont plutôt cliquer sur ces publicités-là, on va être capable de vous présenter la publicité avec un très fort taux de probabilité que vous alliez cliquer sur la publicité parce que ça vous intéresse. Parce que les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous ont été intéressés par cette publicité-là, donc vous allez être intéressé par cette publicité-là. Et ça, c'est toute une partie qui est faite de l'analyse statistique, qui est à partir du moment où on a un échantillon de personnes suffisamment grand. Mais là, on parle quand même de milliards d'utilisateurs sur Facebook. Hein. On est à 1 milliard sur Facebook, on en est à je sais pas combien de millions, de centaines de millions sur Twitter ou sur Google. Ils ont des échantillons très représentatifs, très marqués de populations qui sont suffisamment précises pour pouvoir se planter assez peu sur la présentation de données et donc sur le tracking et l'analyse des données.
Stéphanie, c'est quoi les critères de notation ? Est-ce que si tu vois un visage, si tu vois un corps, si tu vois les goûts de la personne ou ses habitudes, est-ce que tu as envie de noter le physique ou est-ce qu'il projette vers toi ? Est-ce que c'est une attitude ou est-ce que c'est juste sa gueule et son cul ?
Je suis emmerdée.
Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut qu'il y ait un critère physique. Et justement, pour s'ouvrir un petit peu, il faut qu'il y ait un critère un peu qu'on pourrait appeler la sympathie. Alors, il faut trouver le bon terme. Mais je ne sais pas si c'est... j'en sais rien. Si c'est quelqu'un qui est dans le public autour de toi, enfin, dans un monde public, genre la caissière du Franprix, tu vas noter à la fois que c'est une bombasse, mais si elle fait la gueule tout le temps...
C'est dans le
je t'avoue que je ne vois pas les autres systèmes de notation. Je ne sais plus comment ils font. Je sais que tu acceptes ou tu rejettes. Mais après, comment est-ce que tu peux noter le profil de quelqu'un ?
Oui, mais les autres...
Les petits cœurs, faut éviter, quoi.
Ça peut être des étoiles. C'est un favori, quelque part. Ouais, après,
c'est
ouais, mais il faut changer un peu.
Combien on met de signes dans les commentaires ? On met des commentaires, combien on met de signes dedans ?
Moi, je dirais 140 maximum.
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors, il y a un maximum d'échange.
Oui, tu racontes pas qu'arrive.
C'est très bien.
Est-ce qu'on va pouvoir encore longtemps s'auto-contrôler en ligne, sur les réseaux sociaux ?
Je pense que de plus en plus, les gens vont apprendre à maîtriser ce qu'ils font. On voit par exemple que sur Facebook, les gens ont massivement réglé les accès et les choses publiques et privées de leurs comptes. Il y a de moins en moins de comptes complètement publics où tout est mis à disposition de tout le monde. Je suis absolument persuadée que plus les gens auront... pris l'habitude d'utiliser ces outils et de voir ce que ça fait de dire des choses et de voir ces choses reprises, plus ils vont apprendre à contrôler leur usage. Les adolescents, ils ont un usage de ces outils qui est pas parfait, mais ils ont beaucoup plus conscience de ce qu'ils partagent ou pas. Moi, les mauvais usages que je vois, notamment de Facebook, c'est majoritairement des gens qui ont 40-50 ans, quoi, qui invitent systématiquement tous leurs réseaux de contacts à chaque fois qu'ils vont à un concert, qui taguent tout le monde dans les photos, qui ont leur compte public. Les ados n'ont pas cet usage-là.
Est-ce que vous pensez que la législation va pas aller à l'encontre de cette privatisation des réseaux sociaux, cette privatisation de l'espace en ligne ?
Les législations, elles sont soumises à plusieurs forces contraires. Il y a un fond du législateur qui veut protéger les citoyens, donc heureusement d'ailleurs, qui se dit ces entreprises ne doivent pas pouvoir collecter tout et n'importe quoi et en faire tous les usages qu'elles veulent. Ces législateurs sont soumis à un très fort lobbying de la part des entreprises qui font de l'exploitation des données personnelles leur fonds de commerce. Et ces entreprises, c'est pas que Google, Facebook, etc. C'est aussi toutes les entreprises de ciblage publicitaire qui utilisent le comportement des internautes en ligne pour perpétuellement reproposer de la publicité ciblée. Et ça, c'est des lobbyistes très discrets, mais très, très actifs. Et puis, à côté de ça, on a les services de police ou de renseignement qui ont aussi besoin d'avoir de quoi manger. Donc, si les gens arrêtent complètement de partager des choses et si les gens protègent massivement leur communication, les chiffres ou autres, ça va pas leur plaire. Donc, en ce moment, par exemple, on a un règlement européen sur les données personnelles qui est en fin de négociation à Bruxelles et on voit très bien ces forces contraires s'affronter avec des gouvernements qui peuvent se retrouver du côté des grosses entreprises et qui exploitent les données personnelles à partir du moment où ils veulent avoir le même type d'accès et les mêmes sources d'informations que les entreprises.
Quand on regarde par exemple sur Android, il y a des lampes torches, un truc qui va juste éclairer votre écran blanc pour faire de la lumière, qui nécessite l'accès à votre carnet d'adresse pour fonctionner. Donc on a vraiment un problème là-dessus. Donc moi, en tant que technicien, mon approche de ce genre de plateforme-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette demande-là qui est faite. Alors souvent, par paresse, parce que c'est plus simple de demander tout que de demander juste ce dont on a besoin, en fait. Et comme les plateformes de développement le permettent, autant tout demander. C'est aussi d'essayer de trouver des alternatives, de proposer des alternatives. C'est aussi d'essayer d'expliquer aussi, parce que parfois, il y a juste pas d'alternative, en fait. Mais de dire aux gens qu'en fait, ils ont abandonné le contrôle sur leurs données personnelles, en fait. Sur des applications comme on a beaucoup maintenant avec Tinder, comme on avait avant avec Grindr, il y a plein de problématiques qui sont posées. Par exemple, Grindr, c'est une application qui a été utilisée beaucoup par la communauté homosexuelle pour retrouver en fait des mecs mignons qui étaient pas loin, en fait. C'est-à-dire que c'était basé sur, on n'avait pas la localisation précise, mais quand on était proche de quelqu'un, on recevait une notification qu'il y a quelqu'un dans le coin. Et c'est une application qui a été utilisée, par exemple, en Égypte, par le gouvernement à l'époque. Donc c'était avant Sisi, c'était entre Moubarak et Sisi, donc c'était le gouvernement des frères musulmans, qui avait été utilisée par la police. Ils étaient créés des faux comptes sur Grindr et ils triangulaient, en fait. C'est-à-dire que ils avaient 3-4 officiers qui étaient posés à des endroits stratégiques au Caire. Et une fois qu'ils avaient, je suis à 300 mètres de cette personne-là, ils véraient avec d'autres personnes qu'ils étaient à 200 mètres ou à 150 mètres. Et donc ils étaient capables d'identifier et de traquer physiquement les homosexuels. Et comme c'était illégal en Égypte, ils ont été capables de les arrêter. Et c'est vraiment la problématique qui est extrêmement complexe et qui nous échappe complètement, en fait. C'est qui a accès à ces données-là. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, beaucoup de gens ont accès à ces données, notamment avec toutes les révélations qu'on a avec Edward Snowden, mais aussi avec les volontés du gouvernement en France de vouloir accéder à toutes les plateformes, etc. On voit bien que, techniquement parlant, il n'y a pas moyen de cloisonner une donnée, en fait. Ou alors, il faut la chiffrer intégralement. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de possibilité de faire d'analyse de contenu et d'analyse publicitaire. Mais à partir du moment où on a l'analyse de contenu qui est possible pour pouvoir faire de la publicité, pour pouvoir faire du placement de produits, ce genre de choses-là, ça veut dire que les données sont stockées de manière suffisamment identifiante sur les serveurs de la plateforme, et que donc à partir de ce moment-là, un gouvernement, ou même n'importe qui d'autre, de mal intentionné, peut aussi accéder à ces données-là, en fait.
Avec l'évolution des lois en France, est-ce que nos données vont être encore plus exposées? Je pense notamment, on a beaucoup parlé autour des messageries des jeux vidéo, autour des messageries internes.
Je pense qu'elles sont déjà extrêmement exposées, en fait, parce qu'on a très très peu de plateformes qui se soucient, en fait, de la vie privée de l'utilisateur. Le but de Facebook, de Google, de Twitter, d'Amazon, d'Apple ou de ce genre d'applications n'est pas de protéger la vie privée des utilisateurs, mais c'est de vendre de la publicité. Donc déjà, à partir de là, en fait, la vie privée de l'utilisateur, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse. Donc ils fournissent pas de solution de chiffrement, il n'y a pas de moyen de protéger des données, ça leur pose pas forcément éthiquement de problème de travailler avec des gouvernements, etc. Et typiquement parlant, la France est le plus gros pays demandeur de suppression de tweets. Ils publient des rapports Twitter et c'est la France qui en demande le plus. Sur des tweets qui peuvent être utilisés de manière raciste, enfin, ce genre de choses-là. On va avoir, là, il y a vendredi dernier, donc juste avant les élections régionales, il y a un article dans Le Monde qui établit, en fait, sur les prochains projets de loi qui vont se faire, ce que voudrait la police, en fait, et qui, globalement, interdit le chiffrement des plateformes, c'est-à-dire que la police va être capable de pouvoir lire le contenu à tout moment. Et la seule façon d'avoir ça, c'est soit vous avez une technique de chiffrement avec ce qu'on appelle une backdoor, c'est-à-dire on donne au gouvernement la possibilité de casser le système de chiffrement, mais ce qui en fait revient à casser intégralement le chiffrement. Donc en gros, ils veulent supprimer en fait le chiffrement des données, qui est une des briques fondamentales pour pouvoir avoir une vie privée en ligne en fait. C'est-à-dire que sans chiffrement, c'est juste pas possible. C'est pas parce que vous chiffrez que vous avez une vie privée, mais si vous n'avez pas de chiffrement, vous avez difficilement de la vie privée. Parce que n'importe qui peut lire la donnée, parce que n'importe qui peut l'analyser, parce que n'importe qui peut la collecter. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. C'est des données qui décrivent des données. Les plateformes publicitaires, moi, ne connaissent pas. Parce qu'elles ne savent pas que moi, je suis Hawking. Enfin, voilà, elles ne savent pas qui je suis. Par contre, elles savent que j'aime ça, ça, ça et ça, et qu'a priori, je vais aimer ce qu'ils vont proposer ensuite, parce que d'autres personnes ont exactement ce même profil-là. On est persuadé d'être unique, mais on appartient toujours à plusieurs sous-culture, on est à l'intersection de plusieurs groupes culturels, etc. Et donc ce qui intéresse un groupe va m'intéresser moi, ce qui intéresse un autre groupe va m'intéresser moi, ce qui devient très facile pour eux pour cibler en fait du commercial.
Les gens du marketing, je ne vais pas défendre les gens du marketing et du media planning qui sont ceux qui traitent nos données, mais ils avaient l'habitude de... Si on les interroge de près, ils ont un sentiment d'un savoir-faire métier. Ils connaissent leur public, ils sentent leur public, ils savent, voilà, il faut plutôt faire de la publicité dans ce sens-là, votre service, il s'adresse plutôt à tel ou tel type de public. Ils ont une sorte de manière de connaissance intuitive qui est leur savoir-faire, leur compétence professionnelle. Bon, aujourd'hui, le marketing sur Internet, la publicité sur Internet est en train d'être prise par des systèmes aux enchères qui capturent les traces de données des individus sur des cookies et qui leur affichent des bannières publicitaires de façon automatique. Il n'y a plus besoin du media planning. Il n'y a plus besoin de ce savoir-faire. Et même si ce savoir-faire apparaît, on va lui dire non, t'as tort parce que on a regardé les traces de navigation de dizaines de milliers d'internautes. Tous ceux qui ont cliqué sur A et sur B, ben, il faut leur proposer C et puis ils discutent pas. Voilà. Donc il y a d'une certaine manière une automatisation du travail intellectuel qui se profil en partie dans les nouvelles techniques de calcul, et ça c'est un enjeu un peu fort pour les chercheurs, tous ceux dont le métier est la connaissance du monde social ou la compréhension mathématique des relations statistiques entre nos comportements.
Mais ça vous arrive souvent de cliquer sur des pubs ou vos amis cliquent sur des pubs? Parce que personnellement, c'est toujours à côté de la plaque, quoi.
Voilà, moi c'est aussi un sens important de mon affaire. Il faut pas se raconter d'histoire avec ces trucs, ça marche très très mal. Hein. Ça marche mieux qu'une distribution aléatoire, voilà. Hein. Mais moi je clique jamais sur des publicités. J'utilise par ailleurs un outil dont je parle depuis des dizaines d'années, mais qui maintenant est devenu tellement utilisé que ça effraie tout le monde. Les adblocks, les gens de l'internet sont Et c'est typique, voilà, de ce rapport de relation réciproque entre les utilisateurs et les systèmes, c'est-à-dire qu'on se fabrique, on se critique, on se transforme, etc. Bon, les publicitaires ont pourri le web avec leurs pubs, les utilisateurs, ils ont trouvé un outil de résistance qui est AdBlock. C'est une résistance très maigre, hein, c'est un petit bouclier de protection. Mais moi, on me propose des publicités tout le temps, je crois que j'ai jamais cliqué sur une publicité. Mais non, ça marche pas, Bon, on dira jamais assez. Moi, je dis ça parce que moi, je suis toujours tendu entre ceux qui les fabriquent, puis ceux qui les critiquent de façon absolument violente, comme étant une sorte de un monde de la surveillance hyper rationnelle, avec une sorte de théorie d'ailleurs un peu unifiante et un peu comme ça de l'œil qui surveille tout le monde. Bon, l'œil, il est pas très très compétent. C'est pas parce que les outils ont fait des progrès formidables. Moi, c'est la difficulté que j'ai, c'est que les gens qui les fabriquent, les mathématiciens, ils sont passionnants. Ils font des trucs incroyables. Il y a une imagination, un bricolage, une sorte de savoir et de créativité dans les nouveaux modèles statistiques qui est fascinant. Mais ils font pas des trucs intelligents, subtils, hyper performants, comme nous le racontent les films de science-fiction. Donc on a un décalage entre finalement leur art créatif, parce que quand même se débrouiller avec des données aussi mauvaises, aussi sales, aussi bizarres, aussi incompréhensibles en fait, et arriver à en faire des choses, c'est pas mal. Mais en même temps, penser que ce qu'ils font, c'est cette sorte de système panoptique de surveillance totalitaire dans lequel nous serions constamment dans les raies de leurs calculs, c'est complètement se tromper sur la réalité de nos vies, de nos usages, de nos manières de nous comporter. Et on est de plus en plus enregistrés, mais on n'est pas très très bien calculés en fait.
D'où est-ce qu'ils opèrent ?
Ils utilisent 3 serveurs proxy, ça va me prendre une minute.
Ouais, je me suis greffé sur le serveur, mais ils sont déjà au courant.
C'est rien, je vais essayer de leur envoyer quelques diversions.
Fais quoi avec les fichiers?
Je vais les imprimer, sur tous les postes du serveur du Parlement.
Appelle les services parlementaires.
Ils utilisent un serveur au Brésil, mais... tout vient de chez Password.
Et t'as mis la vidéo en boucle?
Ouais, sur le réseau de com interne.
Est-ce que, en tant que sociologue, Dominique Cardon, vous observez aussi ces personnes qui se déconnectent complètement, qui abandonnent toute trace, qui essayent d'échapper à ces traces?
Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux choses. Il y a la sociologie des personnes qui le font réellement, et en fait qui est très spécifique, et en fait assez restreinte en volume, soit elle est en fait peu connectée dans les univers numériques, ce qui est un droit absolu et qu'il faudrait protéger, soit elle est, pour des raisons idéologiques, elle s'est déconnectée de ces univers et elle fait tout pour s'en préserver. Là, c'est en fait un petit monde. Et puis, bon, donc il y a ces gens qui effectivement se déconnectent ou s'en sortent. Et puis, il y a surtout, je pense, cette représentation commune, qui est un désir partagé par tous, en revanche, qui est celui de temps en temps de s'extraire. Donc je pense que ça fait quand même partie d'une forme de l'idéologie individualiste contemporaine, c'est-à-dire que les grands accélérés, en fait, sont des gens qui veulent contrôler leur vie, qui a une sorte de désir d'autonomie du sujet, et que ce désir d'autonomie, il s'exerce même à l'égard des outils qui les aliènent. Voilà.
Ce qu'on observe dans les discussions, c'est aussi une déconnexion de certains réseaux. Par exemple, un certain nombre se déconnectent de Facebook ou se déconnectent de WhatsApp ou de Twitter. Pas uniquement pour une raison d'obsolescence ou de passage de mode, mais aussi par désir de moins laisser de traces. Est-ce que cela, vous le constatez?
Dans les vagues d'outils technologiques, qui sont des systèmes... d'innovation continue et par cycle, hein. Donc en fait, dès qu'il y a une nouvelle technologie, il y en a une autre qui arrive, etc. Donc en fait, on observe constamment des trajectoires de migration entre services, hein. Et très souvent, en fait, ce qu'on appelle la Facebook fatigue, par exemple, des gens qui arrêteraient, c'est parce qu'ils sont passés sur un autre réseau, etc., etc. Donc moi, l'impression globale que j'ai, hein, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de fonctions qui sont remplies par les nouveaux services numériques qui sont devenus très stables, notamment le réseau social, hein, mais qu'en revanche, la plateforme qui nous accueille, elle peut changer. Alors après, est-ce que des gens, parce qu'ils sont informés des risques qu'ils prennent, parce qu'ils ont subi les conséquences qui peuvent être parfois néfastes et assez dramatiques d'une surexposition, décident de se déconnecter, ça, je pense, ça fait partie de la rêverie qu'on a d'imaginer qu'un jour, ce délire va s'arrêter. Voilà. Non, en fait, non, ça va pas s'arrêter. Enfin, moi, je crois qu'il faut être réaliste. Ça ne va pas s'arrêter, et même ceux qui pensent que ça va s'arrêter continuent. Hein. Donc, cette idée que on est entré dans un cycle qui, effectivement, par certains côtés, peut apparaître comme infernal, et qu'on pourrait s'en sortir, moi, j'y crois beaucoup moins qu'à l'idée qu'on est en fait de transformer de l'intérieur. C'est très difficile à observer, c'est très en fait délicat, c'est très dans le quotidien des pratiques. On est en train d'apprivoiser nos propres pratiques et finalement de s'auto-contrôler. Hein. Mais c'est beaucoup plus dans des dynamiques d'autocontrôle qu'on observe des transformations dans les usages. Sans doute qu'on est beaucoup plus attentif et vigilant sur les effets de l'exposition dans les réseaux sociaux. Ça se voit de façon très forte dans les enquêtes. Hein. On n'est plus dans le début de MySpace, hein, où les gens se lâchaient complètement. Je crois qu'on est plus dans ces systèmes-là. On le voit très bien chez les jeunes, notamment, qui sont finalement les plus réflexifs sur leurs usages. C'est-à-dire que le contrôle, la préservation de la réputation, les attentions mutuelles au système distribué de vexation, de honte, de réprimande, etc., font qu'ils incorporent complètement dans leur pratique le fait que si t'as dit ça, je dis ça, je fais attention à dire ça, je teste cette photo mais je la retire parce que tu m'as mal jugé, etc., etc. Donc en fait, il y a une sorte de domestication qui socialise nos comportements et dans lequel nous intégrons de plus en plus des représentations à la fois des risques mais aussi et surtout des opportunités qui permettent. Et donc c'est toujours dans cet arbitrage un peu compliqué entre qu'est-ce que ça permet de faire et puis... quels sont les risques que je prends à profiter de ces opportunités que se débattent un peu les internautes aujourd'hui.
And I went to this website and this ad popped up that said, "Hey Ron Swanson, check out this great offer."
What's your question?
My question is, what the hell?
Like, how do they know who you are?
Yeah.
Okay. There are these things called cookies, where like if you go to a site and buy something, it'll remember you and then create ads for other stuff you might want to buy.
So it learns information about me? Seems like an invasion of privacy.
Bonjour, moi c'est Lunar, je suis bénévole pour le projet Tor. Voilà, Tor, c'est un outil qui permet d'anonymiser les connexions sur Internet, on le présente souvent comme ça. Il est aussi beaucoup utilisé pour contourner la censure. Dès qu'un réseau est filtré, en général, c'est possible d'utiliser le réseau Tor pour contourner les filtres et de façon à avoir accès à tout Internet. Bon, l'exemple, souvent, c'est en Chine ou en Iran, par exemple, où c'est utilisé pour contourner la censure. Voilà, après, c'est un outil qui a des usages multiples et plein de gens qui l'utilisent. Ce que fait Tor en termes techniques, c'est de séparer le routage de l'identification. C'est-à-dire que Tor se débrouille pour acheminer les données sans pour autant qu'il sache à qui il les achemine ou vers où ça va. L'intérêt derrière, c'est que ça permet de reprendre le contrôle de ces données, au sens où c'est pas parce qu'on se connecte à un site que ce dernier il est automatiquement au courant de quelle connexion on est en train d'utiliser et donc où on se trouve. Donc on peut ensuite décider, ah, si on a envie de, ben, par exemple, qu'on fait un achat, de donner une adresse de livraison, mais pour autant, c'est un choix, ça devient un choix volontaire de donner cette information-là. Alors que par le fonctionnement d'Internet habituel, c'est quand on n'utilise pas le réseau Tor pour communiquer, eh ben, on donne ces informations-là malgré nous. Une des choses que permet Tor, c'est de chiffrer les données de façon à l'entrée du réseau, de façon à ce que notre fournisseur d'accès puisse pas savoir les sites qu'on visite, par exemple, ou quelles informations on échange. Typiquement, ça fait que si on se connecte dans un réseau Wi-Fi ouvert dans une gare ou dans un café, eh ben, les autres gens qui utilisent ce réseau sans fil ne sont pas capables de savoir quelles sont nos visites ou quelles informations on échange. Ça fait la protection au quotidien, parce que c'est avec le réseau Wi-Fi, c'est très facile d'écouter les ondes radio, si c'est un réseau ouvert, et de savoir qu'est-ce que font les gens. Alors Tor, c'est un outil technique qui permet, entre autres, de contourner des dispositifs de blocage, de censure. C'est intéressant d'avoir un dispositif technique, ça ne suffit pas. L'idée, ce qui fait que Tor marche, et que, par exemple, il y a des dissidents en Iran qui utilisent Tor pour s'échanger les informations sur la situation sur place et s'organiser pour résister, c'est bien parce qu'il y a des pays où, en fait, c'est possible, à l'heure actuelle, de faire tourner ces relais qui composent le réseau Tor, et qu'il y a aussi, que c'est aussi possible de participer au développement. Si jamais il y avait un effet massif de plein de pays qui décidaient soudainement de réprimer le développement du projet ou le fait de faire tourner des relais, on aurait un problème. Ça, c'est la stratégie à l'heure actuelle du projet Tor fonctionnerait plus. L'idée, c'est qu'il y aurait toujours des endroits où on estime que la liberté de communication, la liberté d'expression, c'est suffisamment important pour avoir des projets comme ça qui se développent. Et on a entendu vendredi dernier dans un article qui était paru du Monde qu'il y avait ça vient de syndicats de policiers qui voulaient bloquer Tor en France. Et alors, le fait qu'ils bloquent Tor me fait pas si peur que ça, au sens où la Chine n'y arrive pas. On est un outil de contournement de la censure. Une bonne partie des financements institutionnels que reçoit le projet Tor à l'heure actuelle, c'est pour développer des logiciels qui nous permettent facilement de contourner la censure. Par contre, c'est plus grave sur ce que ça veut dire en termes politiques. Ça veut dire que la France renonce à doter les personnes qui vivent en France des moyens techniques d'assurer leurs droits d'expression, leurs droits de communication, leurs droits d'organisation. Parce qu'en fait, c'est ça que permet des outils de communication sûrs comme Tor ou le chiffrement en général. Donc quand on a des outils comme Tor ou le chiffrement en général qui nous permettent de faire exister nos droits, en fait, concrètement, et qui sont menacés, et on a besoin d'organisations comme la Quadrature pour faire exister une parole politique là-dessus, pour défendre l'usage de ces outils. Une des questions il a suffi d'analyser un peu les réactions au lendemain du 13 novembre. On a commencé à nous dire que c'était la faute d'Internet. Et du chiffrement, et que c'était la faute des réfugiés. Là, le bilan, c'est que c'était des gens qui ont utilisé des SMS. Alors le SMS, c'est une question. Enfin, je veux dire, c'est tous les SMS sont ou peuvent être enregistrés ad vitam aeternam par les opérateurs. On présente très très peu de données, donc avec 3-4 disques durs, on peut enregistrer énormément de SMS. Donc ça, c'était en clair. Donc, ils n'ont ni utilisé l'internet, ni utilisé le chiffrement, et en plus, c'était pas des réfugiés. Et à un moment donné, face à des stratégies suicides. C'est les gens, ils ont, c'est leur problème, c'est plus de se faire avoir plus tard.
Le gouvernement cherche à vouloir accéder à toutes les données pour pouvoir, en espérant pouvoir trouver l'algorithme magique qui identifiera les terroristes, mais c'est pas possible en fait. Déjà statistiquement parlant, on a un problème. Il faudrait que pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on ait 3 millions de terroristes ou 300 000. Mmh. Ce qui est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment une menace très difficile à détecter de manière statistique en analysant de manière statistique, parce que justement, une bonne partie de leur entraînement consiste à se cacher en fait. Donc en plus, c'est des gens qu'on va avoir beaucoup de mal à analyser. Et le fait que le gouvernement puisse croire qu'en voulant récupérer toutes ces données, on pourra identifier tout le monde, pose énormément de problèmes. Déjà parce que ce qu'ils vont identifier, ça va être essentiellement des gens qui les menacent. On l'a vu avec la manif de la COP21, ce qu'ils ont ciblé, enfin avec l'état d'urgence, ce qu'ils ont ciblé, c'est les manifestants écologistes, c'est pas les radicaux islamistes, djihadistes.
Et il faut qu'on pense à placer la pub là-dedans. Parce que plus ton thermomètre monte, plus t'es dragable, plus tu vas draguer, on va peut-être te proposer des fringues un peu plus sympas.
Mais non, mais avec des personnages fictifs. C'est-à-dire que dans les profils des gens qui sont sympas et qu'on va inventer, ça sera salarié chez machin, cadre chez truc, et en fait, le nom de l'entreprise apparaîtra. Et tu fais ton premier placement produit avec de la bombasse intégrée. Personne n'a jamais fait ça. En fait, tu crées des faux profils qui bossent dans des entreprises qui existent et qui sont tes clients. Tu vends, en plus, que à tes clients des profils un peu sympas où tu as l'impression que, dans ta boîte, ils sont tous jeunes, beaux, intelligents et ils aiment aller à l'opéra.
En même temps, je crois que tu te sers plus d'une appli pour draguer quand tu as 30-35 que quand tu as 25. Parce que quand tu as 25, tu dragues facilement en soirée.
Bah, carrément pas.
Oui, mais est-ce que tu utiliseras Bombas Map?
Ouais, jamais tu assumeras à 35 ans d'avoir une appli dans ton truc.
Bah, oui.
Et que quelqu'un, tu prêtes ton portable à quelqu'un, il y a marqué Bombas Map dessus.
C'est pas faux.
Excuse-moi, tu te décomposes, tu te fissures.
C'est pour ça qu'il faut changer de nom.
Et c'est là d'ailleurs où il faut qu'on chope un maximum de données.
Quand des sociétés intègrent sur des téléphones portables des applis automatiques sur la santé, sur les battements cardiaques, sur le rythme cardiaque, il n'y a aucune maîtrise de ces algorithmes par les personnes qui achètent ces téléphones portables.
Oui, alors là, en fait, c'est des techniques d'enregistrement qui sont proposées. Alors d'abord, la question, c'est de savoir, on a plein de choses qui sont sur le téléphone qu'on n'utilise jamais. D'ailleurs, la plupart de ces applications sont pour l'instant très peu utilisées. Alors, elles sont très peu utilisées précisément parce qu'on ne sait pas comment les calculer par la suite. Beaucoup de choses qui sont liées au quantified self. Donc, quantified self, c'est la mesure de soi. C'est toutes ces applications qui enregistrent le sommeil, les pas, le rythme cardiaque ou d'autres choses. Elles produisent en fait des mesures qui sont extrêmement monotones pour l'utilisateur. Donc, il s'y intéresse pendant 2 jours. Il regarde, j'ai marché tant de pas, j'ai fait tant de kilomètres. Bon, sauf s'il est sportif, s'il est coureur. Et puis, après, au bout d'une semaine, l'affaire est pliée. C'est-à-dire que ça ne présente pas d'intérêt, précisément parce que l'information calculée n'entre pas et n'épouse pas un intérêt, une activité, une représentation de l'utilisateur, et qu'il a beaucoup de mal à voir comment il pourrait la greffer sur quelque chose qui fasse sens et qui fasse intérêt. Facebook, discuter avec ses copains, s'envoyer des vannes, on voit tout de suite la signification, ça accroche sur quelque chose. Calculer le nombre de pas qu'on fait, il faut que ça entre dans un projet de l'utilisateur. Alors il y a tout un travail de l'individu contemporain autour de son corps, de la gestion de soi, etc., qui peut s'intégrer dans ces mesures. Mais pour l'instant, on n'a pas... Enfin, il y a assez peu d'applications qui produisent quelque chose de significatif, sauf un lien très fort avec la santé. Alors après, là, c'est le débat énorme des données de santé, c'est-à-dire que à qui confie-t-on ces données? Elles nous appartiennent, mais elles sont capturées par ces nouveaux appareils. Dans quelle mesure on les agrège? Parce qu'elles ne prennent du sens. Souvent, les données aujourd'hui, leur signification vient de l'articulation avec d'autres bases de données. Et donc, tout le travail très complexe et politiquement sensible de ces affaires est déontologiquement incroyablement fragile, enfin dangereux. C'est le moment où on va connecter ensemble des bases de données qui viendraient de la sécurité sociale, du médecin, de nos propres mouvements captés par ces appareils, et que les informations croisées ensemble peuvent produire de la signification. Elles peuvent sans doute, d'ailleurs, en termes de prévention médicale, avoir beaucoup de sens. Mais elles peuvent aussi avoir beaucoup de sens pour l'assureur qui fabrique notre prime. Hein. Donc et là, les enjeux ne sont pas minces.
Et si on fait de la prospective, donc imaginons que les utilisateurs maîtrisent leur algorithme ou savent le manipuler ou savent l'utiliser, il y a quand même toutes ces données mortes ou ces données en sommeil de ces précédentes applications, par exemple sur la santé. Est-ce qu'on va pouvoir les maîtriser, ces données ?
Bon,
les effacer ?
Alors, il faudrait, et ça, c'est de plus en plus dans les tuyaux de la réglementation, du droit, etc. C'est effectivement de sensibiliser et les utilisateurs à la demande d'effacement et surtout d'obliger les plateformes à le faire. Hein, ce qui est loin d'être fait aujourd'hui. Bon, la critique monte très fortement là-dessus, donc on peut espérer que ça se joue. Il faut aussi faire attention à une sorte de fantasme de la donnée qu'on a tous. Parce que dès qu'on nous dit données, alors on a un imaginaire de science-fiction, on a, et surtout, et je pense encore une fois par méconnaissance et timidité face aux mathématiciens ou aux statisticiens, on s'imagine qu'ils font des trucs incroyables. Alors on s'imagine toujours que s'ils ont les données, ils peuvent tout savoir, tout faire, etc. Bon, la réalité, c'est qu'ils font pas grand-chose. La réalité, c'est que les données, c'est très compliqué. La réalité, c'est que toutes ces traces, quand elles sont ensemble, la plupart du temps, elles sont dans des serveurs qui sont morts et jamais utilisés, et que pour les faire parler, il faut une somme de calculs, un temps pour nettoyer les données qui sont incomplètes, mal catégorisées, pas compréhensibles, difficiles à raccorder, qui font que, en fait, elles sont tout simplement pas utilisées. Hein. Alors, simplement, le risque de leur utilisation n'est jamais absent, donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant politiquement à leur égard, mais il ne faut pas non plus fantasmer la surpuissance du calcul, hein, parce que la réalité du travailleur de la donnée, hein, ce type qui met les mains dans le cambouis, c'est que pour faire parler des informations, quand elles sont disparates et longitudinales et très historiquement très profondes, quand il faut articuler des fichiers de données, etc., c'est d'une incroyable complexité pour un résultat incroyablement trivial la plupart du temps.
Last week, I flew to San Diego to see my auntie. On day one, I met her hot stepdaughter. She's a cheerleader, she's a virgin, and she's really tan. As she stepped out of her massive car, I could only notice she was more than fuckable. I think she was coming back from the game or something, 'cause she was holding those silly pom-pom. On day two, I fucked her, and it was wild. She's such a slut.
C'était Loire Enseignement, la grande collecte, avec Adrienne Charmet-Alix, Hawkin, Dominique Cardon et Lunard. Merci à Ophélia Nour et aux Kennedy Tigers de la direction du numérique de Radio France. Attachés de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire d'Arnaud Contreras pour Sur les Docs.
Okay, listen girls, I met the hottest guy ever. Basically, as I was stepping out of my SUV, I came face to face with my step-cousin or whatever, who cares? Anyway, he was wearing skinny jeans, had funky hair, and the cutest British accent ever. Straight away, I could tell he was a rocker from his sexy attitude and the way he looked at me. He is totally awesome. Oh my god.